France Inter, franceinter.com.
D'Artagnan, en qui j'avais la plus grande confiance et qui m'était bon à tout. Louis XIV. Deux mille ans d'histoire. Le 25 juin 1673, parmi les cadavres des 50 mousquetaires qui venaient d'être tués devant la forteresse hollandaise de Maastricht, Louis XIV reconnut celui de leur chef, Charles de Bas de Castelmore, plus connu sous le nom de D'Artagnan. Le roi en fut tellement affecté qu'il écrivit aussitôt à la reine « J'ai perdu D'Artagnan, en qui j'avais la plus grande confiance et m'étais bon à tout ». Puis à l'insu de tous, Louis XIV fit célébrer une messe dans sa chapelle privée en l'honneur de ce soldat qu'il avait fait maréchal de camp et capitaine-lieutenant de la première compagnie de ses mousquetaires. Mais l'histoire aurait sans doute oublié D'Artagnan si 170 ans après sa mort, Alexandre Dumas n'en avait pas fait le plus populaire de ses trois mousquetaires qui, comme chacun sait, étaient en réalité quatre.
Aramis, et vous Porthos, est-ce la peine d'avoir un baudrier aussi rutilant pour accrocher une épée de paille?
Monsieur,
silence! Et Athos? Où est Athos?
Il est malade.
Malade? Un mousquetaire?
La petite vérole, sans doute.
La petite vérole? Tonnerre! Et qu'est-ce que vous voulez?
Un certain monsieur d'Artala, d'Ortolan, de Gascogne, insiste pour être reçu, monsieur.
De Gascogne?
Qui vous envoie? Mon père, monsieur d'Artagnan.
Vous êtes le fils de D'Artagnan, du Biben! Ah, Gaston, comme moi!
Et qu'est-ce que vous vouliez?
Entrez au mousquetaire du roi.
Alors, les gardes du cardinal!
Pour le cardinal!
Pour le roi!
Un pour tous!
Tous!
Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Alors tous ceux qui, comme vous, comme moi, comme beaucoup de gens, ont lu Alexandre Dumas ou ont vu les innombrables films qui ont été inspirés par ces trois mousquetaires connaissent bien sûr tous le nom de D'Artagnan, mais sans savoir toujours qu'il a bel et bien existé, ce que vous rappelez dans un livre, Le véritable D'Artagnan, pas tout à fait le même que celui du roman d'Alexandre Dumas. Vous rappelez aussi d'ailleurs qu'avant Dumas, quelqu'un d'autre avait rappelé l'histoire très romantique. D'ailleurs, l'histoire de D'Artagnan, c'était un certain Gatien Courtils de Sandras.
Voilà,
c'est de lui que s'est inspiré Dumas.
Absolument, il y a trois D'Artagnan. D'Artagnan ou le triple mousquetaire. et en fait, le D'Artagnan de Dumas n'est pas celui de la réalité, bien sûr. Le D'Artagnan de Courtils non plus. Et le seul vrai, c'est celui qu'on découvre dans les archives, dans les mémoires du temps. Et, alors, les personnages, évidemment, les trois personnages ont un rapport entre eux. Mais il n'est pas toujours facile, si on part de Dumas ou si on part de Courtils de Sandras, de découvrir le vrai D'Artagnan.
Courtils de Sandras qui avait écrit des mémoires apocryphes de D'Artagnan, c'était pas en fait les vrais. Alors, nous avec vous, on va essayer de faire la part du vrai et du faux, de parler du véritable D'Artagnan qui était, ça c'est la vérité, qui était Gascon, qui s'appelait Charles de Bas de Castelmore. Pourquoi D'Artagnan?
Alors, parce que son père, donc qui s'appelait Bertrand de Basse et qui était propriétaire d'une petite gentilhommière qui existe toujours de Castelmore, auprès du village de Lupiac, donc dans le Fezensac, parce que son père a épousé Françoise de Montesquiou d'Artagnan.
Grande famille.
Une très grande famille.
Alors que, père, oui.
Alors que les de Basse descendent en fait de marchands gascons, eh bien, il s'est élevé évidemment dans la noblesse en épousant cette Françoise de Montesquiou d'Artagnan. Et tout naturellement, les enfants de ce couple, il y en aura six, vont porter le nom de D'Artagnan. Mmh. En particulier, notre Charles de Basse de Castelmore, Charles Augier de Basse de Castelmore, qui se fera appeler D'Artagnan, et même comte d'Artagnan. En fait, il n'y a jamais eu de comté de D'Artagnan.
Mmh. Surtout qu'il n'avait pas le droit de porter le titre de comte, dans la mesure où, vous le rappelez aussi, Jean-Christian Petit-Fils, c'est le dernier d'une fratrie. Il est le sixième enfant, le dernier, un cadet
de Gascogne. Alors, c'est un cadet de Gascogne. Au moins, on sait qu'ils sont au moins le deux. deuxième, on n'est pas totalement sûr de l'ordre. Il a un frère qui s'appelle Paul, qui lui aussi montera à Paris. Donc toute l'idée essentielle de ces garçons, c'est de quitter la maison familiale. On a un inventaire du château de Castelmore en 1635. C'est presque le château de la misère du capitaine Fracasse. C'est pauvre. Il y a aussi une pauvre cavale, un poulain roux, comme dans Dumas. Dumas n'a pas été voir les archives, mais là on a quelque chose qui correspond exactement. Alors on prend la route de Paris et puis on va trouver un emploi dans les troupes du roi. Le maréchal de Gassion a fait la même chose, le maréchal de Gramont aussi, et puis un Béarnais, le comte de Tréville ou Troisville, qui sera capitaine des mousquetaires. Et voilà donc l'idée de D'Artagnan, c'est d'entrer dans cette prestigieuse compagnie.
Oui, parce que les mousquetaires, bien sûr, ça existait. Vous le rappelez, Jean-Christian Petit-Fils, c'était même effectivement une unité d'élite. Hein. C'était voilà, le rêve pour quelqu'un qui avait la vocation militaire ou le goût des armes, c'était d'être mousquetaire. C'était pas rien.
Ah non, c'est une troupe d'élite, en même temps une troupe de parade et une troupe qu'on utilise au combat. Alors l'origine des mousquetaires, c'est d'abord une petite troupe de gentilshommes qui avait été composée par Henri IV et qu'on appelait les carabins parce qu'ils portaient une carabine. Bon. Et en 1622, le nouveau roi...
Des mousquets même à l'origine, d'où leur nom de mousquetaire.
Non, c'est justement en 1622 que Louis XIII va enlever les vieilles carabines et va les remplacer par des mousquets. Et c'est à ce moment-là que cette compagnie de gentilshommes va prendre le nom de mousquetaires. C'est une centaine de maîtres, ils servent à cheval. Et après, ils pourront aussi également, dans les combats, servir à pied. Et en 1634, Louis XIII prendra le titre de capitaine des mousquetaires et M. Tréville sera simplement capitaine-lieutenant.
Et c'était à l'époque de Louis XIII et d'un certain cardinal qui n'aimait pas du tout les mousquetaires du roi.
Son éminence, le cardinal duc de Richelieu. Sire, je viens vous demander justice.
Justice? Mais c'est vous qui la faites, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs.
Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de votre majesté, a perdu ce matin 5 de ses meilleurs hommes.
Diantre! Une épidémie?
Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires.
Combien étaient-ils donc?
3.
Et il en reste?
4.
Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. Expliquez-vous, éminence.
J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de votre majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire, je demande cette fois une punition exemplaire.
Et oui, Richelieu l'avait lui-même remarqué, les 3 mousquetaires étaient en réalité 4. Alors là, on va encore faire la part entre le vrai et les faux. Nous avons vu avec vous, Jean-Christian Petit-Fils, que D'Artagnan avait véritablement existé. Mais ce que j'ignorais, c'est que ses compagnons, Athos, Porthos et Aramis, avaient eux aussi existé.
Oui, alors on n'est pas sûr qu'ils se soient rencontrés. Il y a un décalage un peu de génération, il y a 7-8 ans de différence probablement entre eux. Mais Courtilde de Sandra en parle, les présente comme des frères, 3 frères. En fait, ce ne sont pas des frères, ce sont des parents et des Béarnais ou des Gascons. Nous avons un nommé Athos qui s'appelle Armand de Silègue d'Athos d'Hauteville.
Et autre lieu découvert à marée basse, parce que son nom est plus long sans doute que ce qu'il y a à dire sur lui.
Voilà, alors on sait qu'il meurt au pré au clair en 1643, probablement d'un duel. Donc son aventure va très très vite, c'est courte, parce que s'il a connu D'Artagnan, ils ne se sont pas connus très longtemps. Ensuite, on a un certain Isaac de Porto, qui a été mousquetaire, on le voit dans un rôle, donc dans cette liste,
P-O-R-T-A-U,
en 1641, mais D'Artagnan n'est plus mousquetaire à ce moment-là. Mais il se retire dans son château de Béarn, le château de Lannes, qui existe toujours. Et puis le dernier, c'est Henri Aramitz, qui est abbé laïque d'Aramitz. Donc Dumas en a fait un véritable ecclésiastique, ce n'est pas un ecclésiastique, qui est mousquetaire lui aussi, en 1641, donc dans la compagnie de son cousin, Monsieur de Tréville. Voilà, donc ce sont ces personnages utilisés déjà par Courtilde de Sandras, qui écrit les mémoires de M. D'Artagnan en 1700, et donc dans lequel Dumas va venir largement puiser l'inspiration de son roman.
Alors, Alors Athos, Porthos et Aramis, même s'ils n'ont pas nécessairement rencontré D'Artagnan, sauf dans le roman de Dumas, ils ont existé. Est-ce que Milady, l'abominable Milady, a vraiment existé, Jean-Christian Petit-Fils?
Eh bien oui, elle a existé. Elle s'appelait Lady Carlyle. C'était la fille du comte de Northumberland. Et c'était la maîtresse de Buckingham. Et elle est impliquée dans l'affaire des ferrets de diamants dont nous parle La Rochefoucauld dans ses mémoires. C'est le seul auteur à en parler. Alors, on n'est pas certain que cette histoire soit vraie. Encore que moi, j'aurais tendance à considérer qu'elle est vraie parce que La Rochefoucauld a été l'amant de Madame de Chevreuse et Madame de Chevreuse lui a raconté beaucoup d'histoires liées à ces amours entre Buckingham et Anne d'Autriche. Mais la vérité, c'est que D'Artagnan n'a pas du tout été mêlé à cette affaire.
Et non, puisqu'elle s'est passée en 1625, je crois, et qu'il avait 12 ans. Donc, il était encore dans sa Gascogne.
12-13 ans.
Et pas en âge d'aller sauver la reine de cette sinistre affaire. Alors, en fait, il n'est pratiquement pas connu à l'époque de Louis XIII et de Richelieu. C'est à la mort de Louis XIII qu'il va prendre de l'importance, vous le rappelez, Jean-Christian Petit-Fils, lorsque, à ce moment-là, Louis XIV, son fils, était trop jeune, il avait 5 ans, il y avait donc cette régence avec sa mère, Anne d'Autriche, la femme de Louis XIV, et avec le cardinal qui a le plus compté pour D'Artagnan, qui n'était pas Richelieu, c'était le successeur de Richelieu, c'était Mazarin. Et là, comme dans toute période de régence, il y a cette agitation terrible qui s'appelle la Fronde, et là, on va voir D'Artagnan fidèle à Mazarin, fidèle à la reine, Anne d'Autriche, il va prendre des risques, et là, il se rapproche du pouvoir réellement.
Oui. Donc, D'Artagnan, on a juste du temps de Louis XIII un rôle d'une compagnie des mousquetaires où il apparaît en 1633. Et puis, il disparaît, on ne sait plus ce qu'il devient. En 1646, il devient, donc 2 ans avant la Fronde, il devient gentilhomme ordinaire de Mazarin. Donc, il appartient à la suite de Mazarin. Et Mazarin l'utilise comme courrier pour porter des missives secrètes, à la reine en particulier. On lui donne des missions diplomatiques, des missions militaires. À partir de 1652, il obtient une lieutenance aux gardes, sous le piston, disons, de Mazarin, ce qui d'ailleurs provoque quelques remous au sein du régiment des gardes. Il deviendra capitaine des gardes. Donc c'est vraiment l'homme de confiance de Mazarin, et il sera légué à Louis XIV de cette manière. Il n'accédera qu'au rang de sous-lieutenant des mousquetaires qu'en 1658, au moment de la reconstitution de la compagnie des mousquetaires qui avait été cassée quelque temps après la mort de Louis XIII.
Alors là, il commence à jouer un rôle important, surtout lorsqu'en 1660, le cardinal et la reine, la mère de Louis XIV, décident de marier le jeune Louis XIV avec l'infante d'Espagne. Et c'est D'Artagnan qui sera chargé d'escorter le roi, sa mère et le cardinal dans la ville où le mariage doit avoir lieu.
La date sera bien respectée.
Pour le mariage, assurément. Le 9 juin, dans 10 jours, ici même, à Saint-Jean-de-Luz.
Sa Majesté, la Reine.
La partie est gagnée. Dans 4 jours, vous rencontrerez votre frère Philippe IV. Et dans 10, notre roi sera marié.
Et vous? Pourrez-vous marcher dans 4 jours?
Moi? Je préférerais m'y traîner à genoux.
Je la tiens, je la tiens, je la tiens, nous vivons sous.
À la fin, cette bergère, une chanson composée par Antoine Boisset au XVIIe siècle et chantée par le poème harmonique dirigé par Vincent Dumès, une chanson que peut-être Louis XIV et l'infante d'Espagne, quand ils se sont mariés, ont entendue quand ils se sont mariés à Saint-Jean-de-Luz. Un mariage quand même qui était très important.
Très fastueux. Hein, oui,
très fastueux, vous le dites, et alors surtout escorté hein, par les mousquetaires du roi, avec à leur tête D'Artagnan.
Avec D'Artagnan, bien sûr, à leur tête. Et puis, donc, ce voyage dans les pays du Midi, en Provence, en Languedoc, de la cour, a été un moment exceptionnel dans l'histoire du règne où le roi visite ses provinces et puis fait étalage de son vase. La monarchie a besoin de se montrer, et le roi a besoin de se montrer. Le roi est jeune, il a une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment, puis on a quitté cette période sombre de la Fronde, ces combats, la France est en paix, c'est la paix des Pyrénées, en paix avec l'Espagne, et vraiment donc c'est une période nouvelle et heureuse qui s'ouvre, et D'Artagnan est aux côtés du roi, il redécouvre encore la Gascogne, puisque la cour se rend
en
Gascogne.
Il ne l'a pas vu depuis 30 ans. Et alors, là vous dites que c'est évidemment une étape très importante dans l'origine de la fortune de D'Artagnan, parce qu'au fond il est à proximité de ce jeune roi, même si ce jeune roi n'exerce pas encore le pouvoir. Mazarin, plus pour très longtemps d'ailleurs, est encore vivant, c'est lui qui gouverne véritablement, mais là vraiment il est à proximité, il a le pouvoir à portée de main.
Voilà, il y a une intimité qui se crée entre Louis XIV et son sous-lieutenant des mousquetaires, qui exerce en réalité le commandement, puisque le capitaine lieutenant des mousquetaires, c'est le duc de Nevers, Philippe de Nevers, qui est un jeune homme qui passe son temps à s'amuser, c'est le neveu de Mazarin, et la réalité du commandement appartient donc à D'Artagnan. Alors, Louis XIV, comme Louis XIII, aime beaucoup ses mousquetaires, il commande les manœuvres dans la cour du Louvre, et donc à leur tête, eh bien, il y a ce D'Artagnan. Donc il y a une confiance qui s'établit entre eux et qui va jouer un rôle très important dans la suite.
Oui, alors la suite, c'est la mort de Mazarin, quelques mois après le mariage justement de Louis XIV, et un Louis XIV qui, en 1661, prend réellement le pouvoir. Mazarin étant mort, il y a une querelle, bien sûr, entre les deux qui prétendent à sa succession. Il y a Colbert et il y a le surintendant du roi qui est Fouquet, hein, qui épate le roi d'ailleurs par les fastes de sa vie. Et ces deux hommes, évidemment, rêvent du pouvoir. Et c'est Louis XIV qui va trancher en confiant justement à D'Artagnan la première et une des plus dangereuses décisions de son règne. C'était le 4 septembre 1661.
Monsieur D'Artagnan, la mission que je vais vous confier devra être tenue secrète jusqu'à ce que vous l'ayez menée à son terme. Ensuite, au contraire, je souhaite qu'on lui donne le plus d'éclat possible. Arrêtez Monsieur Fouquet quand il sortira du conseil. Monsieur Colbert vous donnera le détail de mes instructions. À vous revoir, Monsieur D'Artagnan.
Voici les ordres écrits signés de Sa Majesté. Vous prendrez bien garde de ne point quitter de vue Monsieur Fouquet dès l'instant qu'il sera arrêté, en sorte qu'il ne puisse détourner aucun papier. Le prisonnier devra être transféré à Angers. Vous lirez le reste.
Bien, monsieur l'intendant, vous pourrez assurer le roi que ces ordres seront ponctuellement exécutés.
Et ces ordres, eh bien, ils le seront. C'est D'Artagnan qui, sur ordre du roi, arrête le surintendant Fouquet. Alors, même si l'ordre vient du roi, c'est une mission extrêmement risquée, et pour D'Artagnan, et même pour Louis XIV, il commence à peine à régner véritablement.
Oui, cette mission, elle aurait dû incomber au capitaine des gardes du corps du roi, qui était Monsieur de Gesvres, mais Monsieur de Gesvres se trouvait être un client de Fouquet. Et la moitié de la cour, le roi le reconnaîtra, était sous la dépendance de Nicolas Fouquet.
L'homme le plus puissant de France.
C'était un homme riche, puissant, donc qui a été frappé au plus haut de sa carrière, il avait construit le fameux château de Vaux-le-Vicomte, il avait acquis des quantités de propriétés en Bretagne, et notamment l'île de Belle-Île, qu'il avait fait fortifier sans l'accord du roi. Et puis, il est frappé, donc, en septembre 1661, le 5 septembre, arrêté par D'Artagnan à Nantes, au château de Nantes. D'ailleurs, au dernier moment, Fouquet manque de s'échapper, parce que probablement il a été averti, et il part par une porte dérobée, et il faut que Louis XIV le rattrape, D'Artagnan s'inquiète, s'affole, court avec une quinzaine de mousquetaires, et le rattrape sur la place de la cathédrale, et lui dit, vous êtes en état d'arrestation. Fouquet joue les étonnés, Castaner en disant « Je croyais être le mieux du monde dans l'esprit du roi. »
En fait, le roi s'en débarrasse parce que c'était un personnage devenu tellement puissant qu'il lui faisait de l'ombre. Louis XIV est bien décidé à gouverner seul. Il n'y aura pas de Premier ministre, hein, même s'il va s'entourer de Colbert. Mais en réalité, c'est vraiment le roi absolu. Et dans ce cas, Fouquet ne pouvait pas rester. On dit aussi qu'il y avait des jalousies. Cela dit, D'Artagnan, cette mission, il l'a remplie si bien qu'il va rester 3 ans à garder Fouquet. Au fond, il est un peu le geôlier de Fouquet. Il va le garder jusqu'à ce que Fouquet soit mis au fort de Pignerol, où il finira ses jours beaucoup plus tard. Mais c'est vraiment un peu un rôle de flic que lui fait jouer Louis XIV. D'ailleurs, il va également le charger d'arrêter un autre grand de l'époque, qui était le marquis de Lauzun.
Voilà, c'est un rôle de confiance, en effet. Ça n'a pas été très gai pour D'Artagnan. Il a été en fait geôlier à Angers, à Amboise, à Vincennes, au château de Moret, à la Bastide de Nicolas Fouquet. Il a conduit Fouquet à Pignerol, et puis il va conduire quelques années plus tard le comte de Lauzun à Pignerol, à nouveau à Pignerol. Mais ce sont des missions de confiance. C'était le seul homme en qui le roi pouvait avoir mettre cette confiance.
C'est pas le D'Artagnan qu'on imagine hein, quand on lit Dumas. De même que, par exemple, vous le dites aussi, Jean-Christian Petit-Fils, il va écraser brutalement une révolte dans le Vivarais.
Hein. Ah oui, et en 1670, en effet, il est à la tête de ses mousquetaires, il part parce qu'il y a une révolte, une émotion populaire, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un soulèvement mené par un petit seigneur de Antoine de Roure, petit seigneur de la région du Vivarais, et la répression est implacable. Elle n'a pas été entièrement commandée par D'Artagnan, c'était surtout le maréchal de Caen, Lebret, qui a décidé de la destruction des villages.
Un vrai massacre. Hein.
Et on descendait les cloches, on massacrait les coupables.
Alors cela dit, il devient un personnage considérable à la cour, hein, beaucoup plus qu'on ne peut le croire en lisant Dumas, hein, avec des titres ronflants. Alors il est nommé maréchal de Caen hein, par Louis XIV, mais aussi, ça m'a fait mourir de rire en vous lisant, capitaine concierge de la volière du roi et capitaine des petits chiens du roi courant le chevreuil.
Oui,
c'était sérieux, ça ?
Alors, il n'a pas gardé très longtemps ses charges. Il a vendu la volière au bout de quelques années, et puis au bout d'un an ou deux, mais pour acquérir une autre charge. Et puis les petits chiens courant le chevreuil, il les a gardés 3 semaines. Mais enfin, il n'empêche que c'est amusant, dans ses états de service, de voir ces titres-là. Il a été aussi brigadier d'infanterie,
Très puis, courageux, hein, on le voit dans beaucoup des batailles de Louis XIV, parce que ce règne était marqué par de nombreuses batailles. Il était aussi courageux que le dit Dumas. Et alors, il avait aussi très mauvais caractère, vous le rappelez.
Oui, courageux, des qualités de cœur, énormes qualités de cœur, un homme d'une grande humanité, ça transparaît à travers les écrits de Madame de Sévigné, de la Grande Mademoiselle, de Lefebvre d'Ormesson, de son ami le baron de Voerden, qui était un grand flamand. Du mousquetaire Carré d'Aligny, qui nous a laissé aussi des mémoires, et il nous parle de D'Artagnan, du vrai D'Artagnan. Mais aussi, c'est un homme autoritaire, entier, raide, susceptible, vaniteux. Il y a une phrase qui est assez merveilleuse, qui est au moment d'une dispute avec l'un des subordonnés, quand il sera gouverneur de Lille, il écrit à Louvois: « Je suis persuadé, monseigneur, que le roi serait fâché contre moi si je souffrais qu'un petit ingénieur de 2 jours méprisât le caractère que Sa Majesté m'a fait l'honneur de me donner ici. »
Si, il ne me sera pas donné de plus belle occasion de déclarer à Votre Majesté que Monsieur de la Béronnière, le Bercantière, lieutenant du roi, prétend se dispenser de venir à l'ordre. J'espère que le roi n'approuve pas le procédé de Monsieur de la Bercantière. Il est doux de mourir pour Votre Majesté. Mais il est inacceptable qu'un lieutenant du roi ait pu passer 2 jours dans une citadelle sans envoyer prendre l'ordre de celui qui la commande.
Monsieur, je vous ai laissé parler afin de voir jusqu'où peut aller votre audace. Qu'elle vous mène en Flandre. Je vous fais gouverneur de la ville de Lille. Faites-moi souvenir de votre nom.
Charles de Batz, capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires. Peut-être plus connu sous le nom de D'Artagnan.
En fait, à cette époque, Louis XIV connaissait parfaitement bien le nom de D'Artagnan, Jean-Christian Petit-Fils, oui. Puisqu'il le nomme gouverneur de Lille. Ça, c'était la plus haute fonction qu'on lui ait confiée en 1667. C'était pas n'importe quoi, hein. C'était très important.
Ah non, c'était une très grande, cité de 50 000 habitants à cette époque-là. Et c'est une des très grandes villes de France et qui joue un rôle stratégique très important. Et pendant la guerre de Hollande, donc, D'Artagnan va occuper ce poste. Et il va y avoir des difficultés parce que le gouverneur de la citadelle, c'est Vauban. Et Vauban a autour de lui des ingénieurs, un adjoint qui s'appelle Monsieur de la Vercantière,
justement,
que D'Artagnan appelle Monsieur de la Bergentière, comme en transformant le V en B selon la bonne habitude des Gascons de l'époque. Et on a des lettres où on voit Monsieur de la Bergentière, Monsieur de la Bergentière.
Donc c'est vrai, hein, ce qu'on vient d'entendre.
Tout à fait exact. Et alors donc, il y a des tensions, y compris avec Vauban, parce que Vauban menace de démissionner. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce furieux qui pose des jurons? On a même une lettre de Vauban. Monsieur D'Artagnan a proféré des paroles vaines, vagues, injurieuses, très peu décentes pour un homme de condition.
Alors, ce D'Artagnan aussi, il se bat. Hein, il se bat. On le voit dans toutes les batailles importantes des guerres de Louis XIV, et notamment celle qui sera la dernière, lorsqu'on l'envoie donc devant la ville de Maastricht. Elle est plus connue pour un traité qui a été signé il y a quelques années que pour être le lieu où est mort D'Artagnan. Ça, c'était pendant une guerre contre les Hollandais.
Voilà, c'est la guerre de Hollande. Il meurt le 25 juin 1673. Il meurt héroïquement parce qu'il y a une erreur qui avait été commise par un autre officier général. Il n'était pas de jour, c'est-à-dire de service, comme on disait à l'époque. Il n'était pas de jour à ce moment-là. Et voyant une contre-offensive menée par les assiégés, les Hollandais, pour reprendre une demi-lune, D'Artagnan décide d'aller rechercher des mousquetaires au camp de Bas.
Et avec une demi-lune, c'est quoi? C'était
une demi-lune, c'est un ouvrage fortifié. Hein, et il décide donc d'attaquer. Et il faut passer, il y a un étroit passage avec une barricade de bois, une palissade de bois qui permet seulement à un homme de passer. Et il fonce sur cette demi-lune. Il est accompagné de John Churchill, le futur duc de Marlborough, qui est à ce moment-là dans les troupes françaises,
hein,
qui est l'ancêtre de Churchill et qui est le fameux Marlborough. Et là, D'Artagnan recevra une balle de mousquet dans la gorge, disent certains, au front, disent d'autres. En tout cas, il meurt et quatre mousquetaires de la compagnie, aimant tellement leur capitaine, iront se faire tuer pour rechercher son corps qui était très en avant dans les lignes hollandaises.
Et Louis XIV vient à son chevet, en quelque sorte. Enfin, il le voit et il fait une messe, dites-vous, pour lui. C'est dire à quel point, quand même, il compte à la cour D'Artagnan.
Il l'aimait beaucoup et sans doute ne l'a-t-il pas suffisamment récompensé, je pense, mais D'Artagnan peut-être aussi aimait bien rester à la tête de ses mousquetaires et donc il y avait vraiment des rapports très étroits entre eux. On retrouve aussi dans Saint-Simon, dans les mémoires de Saint-Simon, la fortune au sens, bien sûr, non pas d'argent du terme pécuniaire, mais la fortune, la gloire acquise par ce D'Artagnan. Saint-Simon en parle alors que, bien sûr, D'Artagnan est mort depuis très longtemps.
Et puis surtout qu'on l'a oublié. Il faudra vraiment, nous, si on s'en souvient, enfin, ce qui me concerne, c'est évidemment grâce à Dumas. Mais d'une certaine manière, au fond, Dumas, je ne sais pas pourquoi Dumas en a fait un personnage de roman, parce qu'à vous lire, c'est vraiment, sa vie était un vrai roman à D'Artagnan, Jean-Christian Petit-Fils.
Sa vie est un roman, oui, absolument. Mais c'est un roman un peu différent de celui de ce bretteur bondissant, représentant de l'aristocratie. Difficile à contrôler. Il est au contraire un homme du roi. Il est au service du roi, au service de l'État et de sa grandeur.
En tout cas, un homme dont vous nous rappelez la véritable histoire dans ce livre, donc Le véritable D'Artagnan, signé par mon invité d'aujourd'hui, Jean-Christian Petit-Fils, et publié chez Talendier. Pour en savoir plus, donc, je recommande ce livre. Je signale aussi, Jean-Christian Petit-Fils, que vous venez de publier un roman, La transparence de l'aube, mémoire de Claire Clémence, princesse de Condé, publié signé chez Perrin. Vous viendrez d'ailleurs très bientôt, j'espère, nous parler de ce personnage qui était également Condé. Hein. Voilà. Et puis à lire également sur les traces de D'Artagnan, de Dominique Lebrun et Richard Noury, un livre de photos aux éditions Privas. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les Trois Mousquetaires de Bernard Borderie, Mazarin de Pierre Cardinal, La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, disponible en DVD chez MK2, et enfin Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry chez René Château Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne, Alain Arnstam, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet rarement traité, la vie mondaine sous le nazisme.